Nous allons rejoindre notre famille dysfonctionnelle ce matin, celle de Jacob. Toutes les familles le sont à quelque niveau que ce soit, hein, dysfonctionnelle. Et nous allons rejoindre cette famille, la famille de Jacob, donc à un moment très touchant, je trouve. Celui du tête-à-tête entre un père et son fils, donc entre Isaac et Ésaü. Alors ce moment est difficile pour les deux hommes. Pour le père, car à son corps défendant, il n'a pas béni son fils préféré. Et pour le fils, parce qu'il est désemparé devant l'effondrement de ses attentes, la disparition de ce qu'il estimait être son droit, et le vide de son avenir, dépouillé qu'il est de ses promesses. Et on va rejoindre donc nos deux hommes en Genèse 27. Lorsqu'Ésaü a entendu les paroles de son père, à savoir que la bénédiction qui lui revenait lui avait été usurpée, il poussa de grands cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction. » Il ajouta, « N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ?» Isaac répondit à Ésaü, « Je l'ai désigné comme ton maître. » Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. » C'est sympa comme bénédiction, je trouve. Hein? J'aimerais commencer par dire que cette bénédiction semble bien convenir ou correspondre à la nature d'Ésaü. Hein, vous savez, le chasseur invétéré qui aime gambader joyeusement dans la forêt. Son amour de la chasse, nous l'avons déjà dit, son désintérêt des autres, prouve qu'il n'est pas un homme de paix, avec comme conséquence que ses descendants, c'est ce qu'on nous a dit dans cette parole, ne le seront pas non plus des hommes de paix. Alors Ésaü est dévasté, on peut comprendre, et demande donc à son père s'il n'a pas une dernière carte dans sa manche. Une autre bénédiction en réserve pour lui. Et donc en fait de bénédiction, j'ai plutôt l'impression que nous sommes ici en présence d'une prophétie de ce qu'il attend. Alors, il faut d'emblée dire, j'ai hésité à vous parler de tout ça, mais je pense que c'est important quand même. Hein. Il faut d'emblée dire que le premier verset de cette prophétie a posé problème à nos traducteurs de la Bible. Ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un de ces versets problématiques. Et je vais donc reprendre ce premier verset de la bénédiction. « Ton lieu d'habitation sera privé des richesses de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. » La majorité des traducteurs, excepté Darby, a traduit sous forme de négation la préposition traduite par loin de ou privé de en hébreu. Alors que cette même proposition peut se traduire de manière positive. C'est d'ailleurs ce que nos amis juifs, dans leur compréhension de l'Ancien Testament, de ce texte, ont fait. Ils ont traduit par une grâce contrée sera ton domaine et les cieux t'enverront leur rosée. Ça correspond quand même un petit peu plus à une bénédiction, vous ne trouvez pas ? Ok ? Faut suivre ici, hein, vraiment, hein, c'est important. On a donc le choix, apparemment, entre une approche positive et une approche négative de cette parole. Je viens de le dire, nos amis juifs ont donc privilégié l'approche positive. Et ils ont une très bonne raison pour ça. En général, les juifs ne font jamais rien pour rien. Il faut savoir en effet que la plupart de nos traducteurs de la Bible en français ont fait le choix de l'approche négative parce qu'Ésaü s'est installé, nous le savons historiquement, sur un territoire sec, rocheux et stérile. Ce qui semblait donc incompatible avec une bénédiction positive promettant une terre grasse et arrosée. Mais mes amis, c'est une déduction a posteriori. La Bible nous dit quant à elle qu'il s'est installé dans cette région désertique, parce que ses biens étaient trop considérables, bénédiction, pour qu'il habite avec son frère. Et on avait le même problème entre Abraham et son neveu. Et on va prendre ce texte en Genèse 36. En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble, et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'installa donc dans la région montagneuse de Séir. Ésaü, c'est Édom. Alors, vous voyez le royaume d'Édom au sud de Jérusalem. C'est désertique, mais c'est un choix d'Ésaü d'aller s'installer là. Vous me suivez ? Ça n'a pas l'air. Si ? Alors, le texte est clair. Ésaü aura donc beaucoup de biens. Il ne sera pas pauvre, hein, pas du tout. Preuve, quelque part, qu'il est malgré tout béni. Alors, le fait qu'il n'ait pas hérité du droit d'aînesse relatif à la promesse faite à Abraham semble ne pas vouloir dire pour autant que Dieu l'ait totalement abandonné. Il semble au contraire qu'encore une fois, c'est suite à un mauvais choix d'aller s'installer dans une terre stérile. Vous avez des milliers de bêtes, des troupeaux, et vous allez vous foutre dans un désert. Écoutez, moi, j'y connais rien. Je suis un homme de la ville. Quand je vois une vache, j'éternue. Mais je sais comme un truc, c'est que si j'ai des millions de boutons, des millions de vaches, enfin des milliers, pardon, je ne vais pas aller m'installer là où il n'y a pas de terre, là où il n'y a pas d'herbe. Il semble donc que c'est suite, encore une fois, à un mauvais choix que la bénédiction va effectivement se transformer en prophétie. Quant à la seconde partie de cette bénédiction, il est bien vrai qu'Ésaü et ses descendants passeront leur vie à se battre. Vous verrez ça si vous lisez l'Ancien Testament. Et gagneront leur subsistance, effectivement, à la pointe de leur épée. C'est une conséquence du choix d'Ésaü. Puisque le pays ne donne pas à manger à son peuple, faute de capacité nourricière, il faudra bien batailler avec d'autres peuples pour assurer sa survie, aller prendre ailleurs ce qu'il n'y a pas chez nous. Genèse 27, toujours dans cette même bénédiction. Tu seras asservi à ton frère, cependant, en errant librement çà et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. La domination de Jacob, le fils cadet sur Ésaü, son aîné, d'Israël donc sur Édom, ce sont deux peuples aussi, en substance, connaîtra, c'est un fait, quelques interruptions au cours de l'histoire. Pour le dire autrement, Édom, les Édomites ne seront pas en permanence sous la domination d'Israël. Quand on lit le texte biblique, on se rend effectivement compte que les Édomites seront soumis à certains moments et totalement indépendants d'Israël à d'autres. En fait, ces alternatives « je suis soumis et je ne le suis plus » vont se succéder jusqu'au moment où, après avoir été vaincu une dernière fois, je parle des Édomites ici, le peuple d'Ésaü, par Jean Hyrcan, tout le monde connaît Jean Hyrcan, bien sûr. C'était un des fils des Maccabées qui avait repris, entre guillemets, le pouvoir en Judée. Ce sympathique Jean Hyrcan s'est autoproclamé grand prêtre, ça c'était pas malin. Et bon, il n'a pas été jusqu'à dire roi, mais prince de Judée. Donc il a cumulé les deux pouvoirs, ce qui dans la pensée de Dieu était impossible. Je rappelle, Dieu est pour la séparation des pouvoirs. Serait-il un peu démocrate sur les bords ? C'est aussi Jean Hyrcan qui va faire détruire le temple des Samaritains sur le mont Garizim. Alors pourquoi je vous dis tout ça, historiquement parlant ? Parce qu'à cette époque où finalement Jean Hyrcan parvient à soumettre définitivement les Édomites, il va les forcer à se faire circoncire et à intégrer Israël. Il va absorber les Édomites au sein d'Israël. Le seul problème, c'est qu'incorporer les descendants d'Ésaü dans la nation juive, c'était aller contre l'ordre établi de Dieu dans notre récit même. Il n'a jamais fait partie de la pensée de Dieu que Israël absorbe les Édomites. Et historiquement, cette annexion a donc été la pire chose possible pour le peuple juif. Parce que quand on réfléchit, quand on potasse un peu l'histoire, on se rend compte que c'est de la race d'Édom que devait sortir la dynastie des Hérodes. Vous vous rappelez le roi Hérode qui a voulu faire assassiner Jésus, etc., qui a fait assassiner tous les premiers-nés. Cette dynastie qui a conduit Israël vers sa ruine finale. Ce sont des Édomites à la base. C'est invraisemblable, hein, quand on y réfléchit. Hein. Alors revenons à Ésaü. Quelle fut sa réaction après l'entrevue avec son père? Comment réagit-il après ce tête-à-tête? Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher. Et je tuerai mon frère Jacob. Sympa cette famille, je trouve quand même. Hein? Quel poète, hein, cet Ésaü, quel poète. Hein? Il pleure pour que son père le bénisse et après il souhaite sa mort pour pouvoir buter son frère. Moi, je trouve ça... les feuilletons télé, non? Ou les séries, moi, je dirais feuilletons devant ma fille, elle piquera une crise. Les feuilletons télé ont quand même... Donc, on n'a en fait rien inventé du tout. Il pleure devant son père parce qu'on lui aurait volé sa bénédiction, mais attend avec impatience la mort de celui-ci pour se laisser aller à sa soif de vengeance. Pourtant, nous l'avons vu, Ésaü a bien reçu une bénédiction, mais il veut celle de son frère. Gna gna gna. Comme le dit si bien le pasteur Antoine Nouis, c'est un bel exemple de désir mimétique. Il a méprisé son droit d'aînesse, mais lorsque Jacob l'a eu, il l'a désiré. Ésaü souffre du syndrome du jouet de bébé. Vous vous rappelez, j'ai une fois expliqué ça. Un bébé délaisse depuis des semaines l'un de ses jouets. Il ne joue plus avec, il ne l'intéresse plus. Mais il suffit qu'on le donne à un autre enfant pour qu'il fasse une crise et pleure toutes les larmes de son corps pour qu'on le lui rende. Un petit mot encore concernant les deux bénédictions reçues par Jacob cette fois-ci. C'est intéressant de faire un parallèle. Donc celle qui l'usurpe en trompant son père. Et puis la seconde, rappelez-vous, où son père le bénit ouvertement, avant qu'il ne parte chez Laban, son oncle, pour se marier. Donc la première bénédiction, qui ne lui revenait pas au départ, rappelez-vous, est tout entière faite de promesses de prospérité et de richesse, des terres, des machins, la soumission de serviteurs, etc. Quand on réfléchit, c'est le genre de choses que l'on aime entendre, et surtout que l'homme recherche par-dessus tout, le bonheur et l'opulence. On peut donc dire quelque part que cette bénédiction-là, elle était bien destinée à Ésaü. Alors que la seconde, accordée à Jacob en toute conscience par son père, concerne, elle, l'alliance faite avec Abraham en rapport avec une descendance et une terre. Rappelez-vous, je reprends cette partie-là, la deuxième bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. La différence entre les deux bénédictions laisse entendre que même si Isaac préférait son aîné, Ésaü, il était conscient de la vocation de ses deux fils. Il savait que la bénédiction de l'Alliance était pour Jacob et non pour l'aîné. Parce que la vraie bénédiction des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, c'est ce qu'ils ont salué de loin, c'est la promesse d'une terre et d'un peuple. Et parce qu'ils ont eu, pas ce qu'ils ont eu en plus, à savoir la richesse des biens nombreux, etc. La vraie promesse, la promesse importante, c'était celle faite par Dieu. C'est la même chose pour nous, hein. On a beaucoup de promesses non encore réalisées, dont celle la plus grande, celle du royaume qui vient, dont nous hériterons avec notre Seigneur Jésus. Ça explique aussi pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas spécialement riches. C'est dommage pour les comptes de l'Église, mais c'est comme ça. Mais c'est les promesses que Dieu fait qui comptent. Revenons à Rebecca, on n'a pas encore reparlé de Rebecca, la maman. Eh bien, la maman va à nouveau intervenir en faveur de son fils cadet, à savoir Jacob, puisqu'elle va l'avertir des projets de meurtre de son frère. Et elle dira même dans le texte, elle n'a pas envie de perdre ses deux fils en même temps. C'est donc elle qui va lui dire « Fuis, fuis, vers mon frère Laban, va rejoindre Laban, où ça ?» C'est intéressant, on en reparlera la semaine prochaine. Elle va en fait lui dire de retourner à Babylone, parce que, encore une fois, c'est la famille d'Abraham, et Abraham, il est issu de quel coin ? De Babylonie. Donc, Jacob, dans son pèlerinage pour aller se marier, il va quitter la terre de la promesse, le futur Israël, la Judée, la Palestine, si vous préférez, pour s'en aller retourner vers le pays de Our, donc la Babylonie. Bon, là, c'est pour sauver sa vie, donc le conseil de maman est plutôt normal, me semble-t-il. Alors, le dernier verset terminant notre tableau familial est lui aussi, encore une fois, édifiant concernant Ésaü. Parce qu'on pourra encore et toujours le plaindre, le pauvre. Hein. Ah, vous pouvez le faire, hein, si ça vous amuse. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Genèse 28. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Ce qu'Ésaü avait déjà fait, vous vous rappelez ? Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les cananéennes déplaisaient à son père Isaac et il alla trouver Ismaël. Ismaël qui est donc le frère d'Isaac et le fils d'Abraham. Ils n'ont pas la même mère. C'est une famille recomposée. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalath, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. Donc en fait, il épouse une des sœurs de sa femme, d'une de ses deux femmes déjà. Il s'est dit, tant qu'à faire, je vais me taper toute la famille. En lisant ça, je me suis dit, enfin, Ésaü s'interroge. Il y a une pensée qui vient dans son esprit. Son neurone s'allume. Je ne suis pas sûr qu'il en ait plus qu'un, en fait. Hein. Il comprend que son mariage avec ces deux femmes cananéennes n'a pas fait plaisir à ses parents. Il a mis le temps, le coco, quand même. Hein. Et pour tenter de réparer, enfin, je pense qu'il répare en fonction encore de se faire bien voir de ses parents, mais il ne trouve rien de mieux que d'aller épouser la fille d'Ismaël, le demi-frère de son père. Et je suis quasi certain qu'il prend cette décision par déduction. Si mes parents envoient mon frère se marier dans la famille de ma mère, je vais moi aller prendre femme dans la famille de mon père. Parce que mon père est au-dessus de ma mère. Vous comprenez le raisonnement ? Je peux me tromper, hein, bien sûr. Hein. Si ce n'est que la famille d'Ismaël est en dehors de la promesse faite à Abraham. Ismaël, ce n'est pas le fils de la promesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'Abraham l'a viré de chez lui. C'est toujours sympa d'avoir un père comme ça. Quand même. Donc c'est Dieu qui s'en est occupé du petit. L'héritier de la promesse, c'est Isaac, donc c'est le père d'Ésaü. Puis, nous l'avons vu, Jacob après lui. Mais certainement pas Ismaël et sa descendance. Encore une fois, Ésaü ne fait que confirmer par cette dernière décision qu'il n'était décidément pas et ne pouvait pas être l'héritier de la promesse. Alors tout ceci manifeste qu'au travers des vicissitudes de la vie humaine, de notre vie, de ses méandres parfois. Comme l'a dit si joliment le psaume 139 que nous avons lu en ouverture du culte, Dieu sait tout de nous, qu'il lit en nous et qu'aucune de nos actions présentes ou passées ne lui échappe. Tout cet imbroglio familial et ses motivations secrètes qui nécessitent tant de réflexion de notre part, après coup, en essayant d'étudier les textes, sont en fait lumineuses pour Dieu et l'ont toujours été. Je pense que ces textes, même si ça peut nous paraître un peu abscon à certains moments, je pense que ces textes nous invitent à puiser en eux cette certitude que Dieu est aux commandes, avec comme corollaire cet apaisement qui doit en venir, qui doit en procéder, et surtout la paix, cette paix nécessaire pour continuer notre route dans la foi, en ce Dieu qui pour nous, est un père, et je précise quand même, surtout, un père aimant. Amen. Je me suis arrêté ici parce que entamer le reste du texte, ça m'aurait fait un message de 3 heures, donc j'ai dû couper à cet endroit-ci. C'est pour ça que j'ai été beaucoup plus court que